Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue dans Ça roule, l'émission vélo qui pédale dans la semoule. Elle va pédaler pendant 45 minutes. On va parler de quoi aujourd'hui? Et ben, on va faire le débrief, le retour, le conseil de classe sur Liège-Bastogne-Liège et la masterclass de Pogacar qui était attendue parce que nos deux chroniqueurs l'avaient anticipé, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Ensuite, on aura deux petites questions provoques. On va parler de Pogacar, on va parler de Van Der Poel. Et enfin, au dessert, on va s'intéresser à un Tour de Romandie où il n'y aura pas de grands favoris, de fantastiques. Donc voilà, c'est un humain qui va gagner. Et pour ça, on va être accompagné de mes deux chroniqueurs, mes classiques, les indéboulonnables de Ça roule. Ils n'ont toujours pas beaucoup d'expertise. Ils regardent les courses à partir de la flamme rouge, mais pourtant, ils ont toujours un avis à donner. Et c'est Nico Delic et Pierre Marchand. On va tout de suite leur demander comment ils vont, comment ça va, Nico.
Ça va super bien, écoute, je suis très heureux, cette période de classique de printemps se termine, place au grand tour avec le Giro qui arrive, donc voilà, assez excité par cette nouvelle phase dans la saison cycliste.
Ouais, alors aujourd'hui c'est le Tour de Romandie dont on va parler, mais c'est bien, tu anticipes déjà sur le Giro. Pierre Marchand, comment il va? Il a pu faire un peu de vélo, le TER de Clermont-Ferrand?
Il se remet gentiment, Pierre Marchand, et il va bien, le soleil de retour, et effectivement les... Grosse course par étape arrive, donc excité comme Nicolas.
Ok, ouais, j'espère que vous allez avoir des avis aiguisés, que vous avez bien préparé votre conseil de classe aujourd'hui et que vous allez être pertinent. Eh bien messieurs, on va commencer tout de suite par débriefer Liège-Bastogne-Liège et on va commencer par le traditionnel conseil de classe.
Vous n'allez tout de même pas lui refuser les félicitations. C'est une classe de débiles.
Nous mettrons quand même niveau B avec les encouragements.
Eh bien, vous n'êtes pas difficile.
Le conseil de classe, vous connaissez le principe, messieurs, félicitations, encouragements, avertissements, vous avez tout vu, rien ne vous a échappé. Avant, en intro, je vais vous poser une petite question, avant de vous donner les différentes appréciations. Vous allez me dire ce que vous avez retenu de la course, quels sont les enseignements de cette course, en une minute, pas plus, par chroniqueur, et vous allez me donner une note à cette course, c'est un petit peu le préambule du conseil de classe. Qui veut commencer?
Allez, je me lance.
Allez, c'est parti pour Nico. Merci, Nico. Nico, c'est parti, il prend la main. Une minute, qu'est-ce que tu retiens de la course et tu me donnes une note. C'est parti, une minute, je décompte.
Une minute, eh bien moi je retiens le podium de Liège-Bastogne-Liège, un podium de champion avec Pogacar, Bardet, Van Der Poel. Pogacar évidemment parce qu'il a fait une masterclass, il était une jambe au-dessus, deux jambes, peut-être même trois jambes au-dessus de tout le monde. Il termine avec 1,39 d'avance sur Romain Bardet, deuxième. C'est quand même le plus grand écart depuis 1980. Donc chapeau, Tadej Pogacar, il n'y avait rien à faire. Je retiens aussi donc en Bardet, en deux, je retiens sa persévérance, son abnégation. C'est un coureur qui a eu quand même des saisons un peu plus compliquées. Il y a la jeunesse qui arrive, mais il nous rappelle du haut de ses 33 ans qu'il est encore là, qu'il faudra encore compter sur lui sur cette saison 2024. Et il nous a fait un super numéro dans le final, donc bravo Romain Bardet. Et puis, je retiens quand même Mathieu Van Der Poel, je dirais sa classe un petit peu, parce que...
Il reste plus de 10 secondes, monsieur.
À 98 bandes de l'arrivée, j'y croyais plus, je pensais qu'il allait abandonner. Au final, il finit, on ne sait pas comment, mais il finit troisième. Il a salué la performance de Pogacar en disant qu'il n'avait rien à faire. Je trouve qu'on a eu un formidable podium, donc bravo à ces trois coureurs.
Et la note de la course, s'il te plaît?
Je donne un 12 sur 20, car pas trop de suspense, mais un beau numéro de Romain Bardet pour le Cocorico. Donc c'est un 12 sur 20.
Ok, bon, en tout cas, t'as bien résumé tout ce qui s'est passé. Je pense que ça va être peut-être un peu plus court pour Pierrot. Pierrot, c'est parti, la minute récap.
Alors peut-être de façon un petit peu plus désordonnée, moi ce que je retiens, c'est effectivement le déséquilibre en termes de concurrence. Il n'y avait pas Roglic, il n'y avait pas Remco. Et donc, malheureusement, on est un petit peu frustré en tant que spectateur en termes de spectacle. Donc, on repassera. Effectivement, au-delà du cas Bardet, je pense qu'il faut quand même souligner la densité des cyclistes français sur l'ensemble des classiques ardennaises. C'est quand même assez impressionnant. Alors, certes, il n'y a pas de vainqueur, mais c'est quand même costaud. Et peut-être, dernière chose, Nicolas y a fait allusion. Ça me rassure un petit peu sur ma compréhension du vélo. Van Der Poel, quand il y a plus de 4000 mètres de dénivelé, il ne peut pas jouer pour la gagne. Donc ça me rassure. Par contre, sur la domination de Poggi, peut-être une piste avec Nicolas qui a dit qu'il était trois jambes au-dessus. Donc peut-être qu'il a une jambe supplémentaire pour rouler. Et ça explique peut-être pourquoi il est si fort. Voilà ce que je retiens de
Il reste plus que 7 secondes. Tu vas nous donner une petite note à cette course.
Et là, pour la note, 13 sur 20 parce que Bardet fait deuxième.
Ok, très bien messieurs, je pense que vous avez bien entamé le chapitre Liège-Bastogne-Liège, on va pouvoir passer au conseil de classe, aux appréciations, on va tout de suite enchaîner avec les félicitations. Nico, tes félicitations, elles sont pour qui?
Elles sont pour Décathlon à G2R.
Décathlon à G2R. Ok. Brièvement, tu nous expliques. Je pense que ça va aller assez vite sur ces félicitations, mais vas-y.
Ouais, bah, je tenais à saluer leur performance avec Paré-Pinte qui fait 5, Lapera qui est toujours là, il fait un printemps incroyable qui fait 11 et Cosnefroid qui fait 16. Voilà, ils mettent 3 coureurs dans le top 20 plus un top 5. Donc bravo à eux tout simplement. Ils font une course qui est exceptionnelle, je pense, pour eux. On les a vus aussi acteurs, ils ont été acteurs avec Cosnefroid dans le final, donc ils ont vraiment, je dirais, aussi initié des choses, ils ne sont pas contentés de suivre. Donc subi. Voilà, c'est chapeau, bravo pour ces trois beaux résultats et même le reste de l'équipe. Hein, je crois que toute l'équipe doit faire un top 50 ou à quelque chose près, quoi. Donc franchement, toute l'équipe a été très forte sur cette course. Donc bravo et félicitations à Decathlon AG2R.
Thiro, la cinquième place de Aurélien Paré-Pinte, c'est suffisant pour donner les félicitations? Est-ce que Nicolas t'a convaincu?
Oui, Nicolas a insisté sur la dimension collective de l'équipe et je pense que c'est amplement mérité. Moi, je vais même au-delà. Alors, en sortant peut-être un peu du cadre de Liège-Bastogne-Liège, je vais peut-être me faire recadrer par l'animateur, mais ils font un super début de saison. On est dans la confirmation, arrivent les courses par étapes. Ils ont O'Connor, ils ont Gall, bref, ils ont une équipe qui est très complète, qui est dans une vraie spirale positive. Et c'est vraiment impressionnant. Et peut-être qu'à la fin de l'année, ben, ça sera dans le top 5 mondial en termes d'équipe. Donc, chapeau. Et le Liège qu'ils font, effectivement, on est une illustration. Et Nicolas, je ne sais plus si tu l'as cité, mais bon, l'Apera, voilà, peut-être qu'ils se sont un peu perdus dans le final. Ils avaient 3 cartes. Peut-être qu'ils pouvaient faire encore mieux, mais enfin, avoir 3 cartes dans un final de Liège, même si effectivement il y a beaucoup de monde, ça dénote quand même d'une solidité collective que très peu d'équipes peuvent mettre en avant sur ce Liège.
Ok, donc si je comprends bien et si je retiens ce que vous avez dit, ce sont des félicitations pour Liège-Bastogne-Liège et aussi pour leur magnifique début de saison à la meilleure équipe française du moment. Très bien, bah, c'est validé. Bah, on continue avec les félicitations de Pierrot pour tout, pour qui?
Mes félicitations, oui, je suis bien là. J'ai un petit doute, mais il me semble que je les avais attribués à Romain Bardet.
Bah,
en tout cas,
oui.
Je les attribue à Romain Bardet sans problème.
Évidemment.
Encore une fois, je sors légèrement du cadre, mais bon, puisqu'on intervient chaque semaine, je peux me le permettre. C'est qu'avant d'arriver sur Liège, Romain Bardet, il a fait le Tour des Alpes. Et sur le Tour des Alpes, il était très agressif, avec pas mal d'attaques. Alors, sans succès, mais vraiment, il était acteur. On sentait qu'il y avait une forme presque d'agressivité, de grinta. Et cette grinta-là, bah, on l'a retrouvée sur Liège. Donc, chapeau à lui, parce que... Bah pour finir solo, quand même, il faut être fort physiquement. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et après, tactiquement, je pense qu'il a quand même été pas mal. Bon, je pense qu'il peut dire merci à Benilly. Il a quand même bien profité du boulot de l'Irlandais, mais il a eu ensuite l'intelligence, et apparemment, il l'a mentionné post-course, de ne pas s'affoler quand ça revenait à moins de 10 secondes et que ça allait finir par se regarder. Et c'est ce qui s'est passé. Donc. Voilà, j'ai envie de dire, il pouvait difficilement faire mieux. Enfin, il ne pouvait pas faire mieux en termes de place, en tout cas. Donc, il vient faire deuxième. Et par rapport, effectivement, à ce qu'évoquait Nicolas, désolé, je suis un petit peu long, mais par rapport à son âge, par rapport qu'il n'a jamais été aussi fort physiquement et que pourtant, il prend des branlées sur certaines courses, ce n'est pas évident de rester engagé, motivé, impliqué. Et il l'est. Et ça se résume et avec pour récompense... cette superbe deuxième place. Donc, félicitations à Romain.
Et oui, félicitations à Romain qui a devancé la génération montante française. On attendait Cosnefroid, Vauclin, Lapera. Ils ont été là, mais il y en a un qui a été encore au-dessus, c'est Romain Bardet. Nico, tu partages l'avis de Pierrot, les félicitations pour Romain?
Oui, je partage tout à fait. Je crois que c'est l'équipe qui a titré quelque chose comme Bardet premier derrière Pogacar. Donc, ça résume un petit peu tout. J'ai bien aimé ce titre. Et non, ce que j'aimais aussi, c'est dans l'approche que Romain Bardet a eue de Liège, et c'est la même que Paré-Pinte, c'est que ces deux coureurs qui n'ont fait aucune autre ardennaise avant, qui se sont concentrés sur le Tour des Alpes, et bah, ça a plutôt bien marché, ce qu'ils font 2 et 5. Mais c'est rare pour être souligné, parce que la majorité quand même des coureurs qui performent sur Liège, souvent sont présents sur les autres ardennaises, et eux, ils ont choisi deux voies différentes en se préparant.
Pogacar a fait pareil.
Et oui, bah ouais, Poggi, c'est encore un cas à part, mais, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Voilà, ils font 2 et 5. Et je crois que c'est Paré-Peintre qui a dit c'était quelque chose, voilà, qu'il a été conseillé justement par bah, peut-être, je crois que je reviens par Bardet en disant enfin, voilà, que c'était un bon truc de faire le tour des Alpes avant, que c'était une préparation idéale, et par son équipe aussi, qu'il n'y croyait pas trop. Et au final, bah, ça a bien fonctionné.
Ok, donc félicitations validées pour Romain Bardet. Ok, très bien. Ben, deux félicitations. Donc tous les deux, vous êtes d'accord sur Décathlon, Romain Bardet. Moi, il y avait deux choses sur lesquelles j'ai jamais cru dans cette course. C'est que je pensais que Van Der Poel n'allait jamais revenir. Il est revenu. Et je pensais que Bardet allait se faire reprendre. Il s'est jamais fait reprendre. Voilà, comme quoi, comme quoi tout est possible dans le vélo. Bon, je note que vous n'avez pas mis les félicitations à Pogacar. Il est dans une autre sphère. Je pense que là, il est.
Mais on l'a déjà fait sauter une
On...
classe. On avait dit
Ouais,
qu'on
voilà,
l'avait
il
fait
fait sauter
sauter
une
une classe.
classe, donc finalement, il n'a pas vraiment d'intérêt à faire partie de ce conseil. On continue, on enchaîne. Nico, les encouragements, toi, sur Liège-Bastogne-Liège, tu les attribues à qui?
Je les ai mis à Van Gils, un petit coureur que j'aime bien et que je cite souvent ici, mais quand même Van Gils, donc il fait quatrième de Liège, le coureur de la Lotto. Il était présent dans le final où il a tenté un truc dans la Rochefaucon en essayant d'attaquer, en essayant de revenir sur le groupe Bardet. Bon, il n'y a pas réussi, mais malgré tout, il reste dans le sprint et il fait une super quatrième place. Et je tiens vraiment à le mettre en avant parce qu'il n'est pas dans la meilleure équipe. Enfin, il veut dire, il n'est pas dans les gros mastodontes. Il est chez Lotto, il est dans une très bonne équipe, mais pas la meilleure. Et il fait un printemps bah, depuis l'Estrade qui est tout simplement
Ah,
exceptionnel.
c'est
Et
plus qu'un printemps là, hein.
oui, bah, c'est
C'est un printemps-hiver.
un printemps hivernal.
Il nous a fait une collection printemps-hiver,
Non, mais
Van
depuis
Gils.
l'Estrade, et donc il fait quand même 3 d'Estrade, 7 de San Remo. À la Flèche, il était là, il fait 3, là, il fait 4. Et je me demande si, bon, on enlève Pogacar, Van Der Poel, peut-être Philipsen, mais je me demande si c'est pas le quatrième meilleur coureur depuis le début de cette année, sur ce printemps, quoi, sur ces classiques de printemps. Donc voilà, encore une fois, chapeau à Van Gils, et j'ai hâte de le voir. L'an passé, il était un petit peu passé à côté de son Tour de France, donc j'ai hâte de le voir si c'est prévu ce qu'il va donner sur le Tour de France cette année.
Ok, très bien. Pierrot, le Belge Van Gils de 24 ans, est-ce qu'il mérite les encouragements selon toi?
Ouais, très costaud, Van Gils. Moi, j'étais un peu surpris, pour pas dire déçu, sur la flèche. Je pensais qu'il était en capacité de gagner. Bon, il fait 3, hein. Il n'y a rien de déshonorant, mais eu égard du plateau à l'entame du dernier passage au mur de Huy, je le voyais bien gagner. Il a fait 3e, mais ce qui est déjà, encore une fois, super. Et sur Liège, ouais, il est vraiment fort, et à chaque fois il arrive à tirer son épingle du jeu, donc ça pourrait même mériter des félicitations.
Ah, félicitations, encouragement.
Bah, je vais
Pierrot.
poser la question à Nicolas, hein. Qu'est-ce qui justifie de ne pas lui mettre les félicitations à Maxime Van Gils?
Bah, félicitations, c'est s'il avait eu une victoire sur ces classiques de printemps. Tu vois, une victoire
Et
sur la
sur la flèche
Flèche
wallonne,
ou
il vient de
sur
nous le dire, Pierrot.
l'Amstel. Donc c'est pour ça que je lui mets les encouragements. Bah, après, il fait juste des magnifiques places, hein. Mais j'aurais mis félicitations s'il y avait une victoire au bout.
Ok, vendu alors.
On valide les encouragements pour Maxime Van Gils. Ouais, effectivement, c'est peut-être on voit qu'il est extrêmement présent sur l'intégralité des courses
C'est
depuis
dingue ce qu'il fait, hein.
l'Estrade. Bon, après, voilà, il y a des phénomènes devant, mais c'est vrai que ça aurait peut-être mérité une petite place, une petite flèche wallonne. On verra pour ce qu'il nous fera sur sa collection printemps-été.
Tout à fait.
Les encouragements de Pierre Marchand, je serais très curieux de les connaître, puisqu'il n'y avait pas Pedersen.
Oui, alors j'en avais plusieurs sur ma liste. Il a fallu faire un choix, et finalement, après plusieurs rebondissements, moi
Ouais.
j'aimerais parler de Romain Grégoire. Alors, ce qui peut paraître paradoxal, parce que par rapport à mes attentes, faire, je sais pas, il doit faire dans le paquet 20e, 30e, bref, peu importe. C'est loin de. Enfin, j'en attendrais plus de Romain Grégoire sur une course comme Liège. Cela étant, par son comportement en course. Je l'ai trouvé très fort en fait physiquement. Pour moi, c'est le deuxième plus fort de cette course, dans le sens où il a fait, de mon point de vue, une petite faute tactique en cherchant à tout prix à rentrer quand il y avait plus d'1 minute d'écart en compagnie de Pidcock de Van Sevenhout. Pour moi, là, il s'est un petit peu affolé. Mais s'il a fait le jump, c'est aussi qu'il se sentait fort physiquement et que surtout, il est capable de prendre ses responsabilités. Car il estime que, bah, tout simplement, la gagne est en péril. Donc pour moi, c'est quand même révélateur d'un niveau de confiance élevé. Et après avoir quand même laissé, je pense, un petit peu dû pour rentrer, bah, il est ressorti comme... On l'a tous vu avec d'autres Français. Et pareil, là, il était quand même fort. Enfin, déjà, d'être capable de ressortir, pour moi, c'est révélateur d'un niveau de forme physique vraiment très élevé. Donc, en termes de résultats, c'est pas bon. Mais en termes de comportement et de performance physique, pour moi, c'est très bon. D'où les encouragements pour Romain Grégoire. Et avec un petit peu plus de chance, de malice et une année de plus au compteur, je pense qu'il peut envisager très légitimement un podium pour la prochaine édition.
Ouais, c'est vrai que Grégoire était le seul à s'être retrouvé dans l'échappée de 4 avec Bardet, Cosnefroy et Illy. Le seul à avoir également dû faire le jump derrière, il avait été retardé par la chute. Nico, les encouragements pour Romain Grégoire, ils te paraissent légitimes ou...
Ouais, je partage tout à fait. Je partage tout à fait. Je rejoins ce qu'a dit Pierrot, donc je ne veux pas plus développer.
Ok, très bien. Bah, on a encore une fois deux encouragements validés. Vous êtes d'accord aujourd'hui.
Ouais, voilà,
vous êtes très consensuel. Bon, bah, c'est français depuis le début. Hein. Les félicitations Décathlon Bardet, Grégoire ici sur les encouragements. Bon, on a mis un petit belge Van Gils. Les avertissements, est-ce que ça sera français, monsieur, ou pas? On va le savoir tout de suite. On va continuer avec toi, Pierrot. Tu étais bien lancé sur Grégoire. Les avertissements pour toi de ce Liège-Bastogne-Liège, à qui tu as envie de les attribuer?
Eh bien, on va rester chauvin. Après avoir dit du bien des Français, on va dire du mal des autres.
Ah.
IF, alors non pas en termes de comportement, parce que pour le coup, merci Carapace de nous avoir fait un instant vibrer, en tout cas cru que...
On y a plus 5 secondes.
Poggi n'allait pas faire cavalier seul tout le temps.
Il a regardé ses watts, il a regardé ses watts et il s'est dit où est-ce que je suis.
Il s'est reposé sur son compteur. Il a dit moi non, c'est pas le compteur qui déconne, c'est que ça va trop vite. Pareil, Benili, bah, comme d'habitude, hein, très vaillant, très combatif. Mais une fois que j'ai dit ça et salué l'attitude qui pourrait valoir des encouragements, eh bien, si on fait le bilan en termes de résultats, je veux dire, il y a rien, non, mais il y a pas grand-chose. En tout cas, par rapport à l'équipe qui était alignée au départ et bah, au pédigré des coureurs, pour moi, ils peuvent faire mieux. Enfin, ils doivent faire mieux. Je dis ça, je sais même pas quel est le premier IF de la course, mais je pense qu'il est pas, il doit être en fin de paquet.
C'est Carapace, 26e et 27e. Ils finissent tous les deux derniers du sprint du gros groupe, bah, du sprint du peloton Van Der Poel.
Ouais, donc bon, pour moi c'est assez révélateur.
Bon, c'est pas
peut-être
sprinter.
Une stratégie trop, à la fois peut-être trop offensive parfois, et surtout moi ce qui m'interpelle, et je l'avais vu aussi, je sais plus si c'était sur le Tour du Pays Basque où ils s'étaient retrouvés tous les deux échappés. Parfois j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment dans la même équipe en fait. Ils font un peu chacun leur course. Et à un moment donné ça s'est vu, il y avait Carapace devant, il y a Benelli qui a remonté, qui a attaqué. Voilà, je trouve que c'est pas très lisible leur stratégie. Alors c'est toujours facile de taper sur les équipes qui n'ont pas de résultat au bout, et au moins ils ont le mérite d'essayer. Mais bah quand même, pour moi, Benili et Carapace, c'est sur ce genre de course, c'est très légitimement qu'ils peuvent prétendre au podium. Et bah, force est de constater que sur cette course, ils ne l'ont pas fait, et sur les courses d'avant, c'est un petit peu pareil, quoi. Donc, pour compléter et pour terminer, je dirais que mon appréciation, elle concerne d'abord Liège, mais en fait, elle peut s'appliquer aux autres Ardennaises où on les a vus, mais au moment de passer la ligne d'arrivée, ils n'étaient pas dans les premières positions, d'où mon avertissement.
On va demander l'avis de bah, notre autre expert, notre autre consultant, Nico. Est-ce que Carapace, expert, c'est peut-être un peu trop fort. Carapace, le champion olympique en titre, Benili, il avait fait podium l'an dernier. Comportement offensif, mais qui ne paye pas. Est-ce que toi, ça vaut les avertissements pour toi?
Ouais, expert, c'est trop fort. Hein. Je suis pas expert. Non, mais pour rejoindre, j'ai deux choses à partager. Je rejoins Pierrot sur. Alors, je suis pas dans le bus de IF et je ne sais pas ce qui se passe le matin.
Ah, mais il a des infos.
Il n'est pas dans le bus de IF.
Mais je me dis quand même que là où je te rejoins, c'est que Carapace, bah, c'est une forte tête. On l'a vu quand il était chez Movistar. Je pense que c'est un gars qui se laisse pas du tout marcher dessus. Et donc, je peux effectivement comprendre que, bah oui, effectivement, il a peut-être des fois envie d'en faire qu'à sa tête ou de faire sa course un peu de son côté. Et comme tu le dis, hein, qu'il n'y ait pas forcément une entente avec Benilly. Benilly, je ne sais pas comment il est au quotidien, mais Carapaz, bon, c'est quand même assez, assez connu, quoi. C'est quelqu'un ouais, qui est assez fort de caractère, donc ce qui fait qu'il y a peut-être une certaine pas mésentente, mais du moins une osmose qui n'est pas parfaite. Donc voilà, là où je te, voilà, c'est, enfin, je te rejoins sur ce.
Mais les avertissements, est-ce que tu les donnes?
Bah en fait, c'est marrant parce que moi, j'en attendais pas. Enfin, je sais pas, je m'attendais pas non plus à ce qu'il fasse. Un podium. Enfin, après, il y a Benilly.
Benilly, ouais, podium ouais, sortant.
Ouais, ouais. Podium sortant, Benilly, mais je sais pas. En fait, je l'avais pas du tout mis sur mon podium. Il fait un début de saison qui est quand même plus.
Quatrième de Liège l'an dernier, pardon. Il fait deuxième de l'Amstel.
Ouais. Mais ouais, cette année, tu vois, sur l'Amstel, la flèche, il a pas pesé, on l'a pas vu. Donc en fait, j'en avais pas du tout fait un élément favori. Donc je m'attendais pas à ce qu'il pèse sur la course. Donc si je m'en tiens à ça, non, pas trop d'avertissement. En fait, j'en attendais pas forcément, je dirais beaucoup d'eux, ou je m'attendais pas à les voir.
Alors, aussi pas d'avertissement pour toi, Nico. Avertissement pour toi, Pierrot. Je vais devoir trancher dans ce cas. Et je ne vais pas donner d'avertissement pour la simple et bonne raison que je les ai trouvés extrêmement offensifs et que je pense que Benny a quand même contribué à avoir une course très remuante. Par contre, je partage l'avis de Pierrot, je ne comprends pas très bien leur stratégie d'équipe. Je pensais que Benilly était au service de Carapaz jusqu'à ce que je le vois attaquer pour être dans le groupe de 4. Mais pour moi, c'était un peu trop fort pour leur donner les avertissements. Les avertissements ne sont donc pas validés, messieurs, pour IF. On continue et on va conclure ce conseil de classe avec les avertissements de Nicolas. Nicolas qui va ajouter quelque chose.
Ouais, je vais ajouter un petit quelque chose. Il y a une image qui m'a marqué, bah, tu l'as dit, Pierrot, quand Carapaz attaque derrière Pogacar, on se dit qu'il va pouvoir tenir. Et j'ai compté, c'est assez dingue. Pogacar, il reste 7 secondes précisément en danseuse quand il attaque. Et après, il se rassoit et il fait toute la côte de la redoute assis. Donc, c'est très court. Et moi, ce qui m'a frappé, enfin, je ne sais pas vous, mais c'est l'image derrière. Donc, Pogacar qui est assis et derrière, il y a tout le monde qui est en danseuse et qui essaye de relancer. Et avec Carapaz, c'était assez frappant. Il a essayé de relancer pour rester accroché. Et j'ai trouvé l'image qui était assez forte entre un Poggi qui se met en danseuse au démarrage, mais vraiment très rapidement, après qui se rassoit. Et derrière, il y a tout le monde qui est en danseuse, mais qui est déjà à 20 mètres derrière.
Ah, tu sais, quand tu es à 45 km/h dans les bosses, il faut que tu baisses la tête, tu peux pas être en danseuse, tu perds du temps à cause de l'aspiration, hein, si je peux te donner une réponse.
Ouais, mais là, tu regarderais. Là, l'image, elle est assez frappante. Hein, quand tu as une image où tu as Poggi qui se rassoit, et après, derrière, tu as tout le monde qui est en danseuse pour essayer de faire ce qu'il pouvait, mais elle est assez frappante, je trouve, l'image.
Ouais, ça fait penser un petit peu au Strade Bianche également quand il est parti. Ouais. Tes avertissements, Nico, s'il te plaît.
Oui,
est-ce que ça va être sur un coureur qui a été en danseuse, pas en danseuse, ou ça va être un peu plus sérieux là?
Eh bien, si, c'est un coureur qui a été en danseuse et qui a essayé de suivre aussi et qui l'a regretté, c'est Mathias Kelmoseux.
Aïe, 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 Mathias Kelmoseux, il était annoncé parmi les favoris.
Et ben voilà, c'est pour ça que j'ai mes avertissements. Moi. Je le voyais davantage pesé sur la course et il l'a reconnu. Il a fait une erreur en essayant de suivre Poggi et après il a littéralement explosé, ce qui finit loin. Hein. Il finit même pas dans le peloton Van Der Poel. Il finit 4 minutes quasiment. Donc avertissement pour Skelmoseux sur ce Liège et puis aussi parce que l'an dernier il fait une super campagne d'Ardennaise. Il fait 3 top 10 sur les 3 classiques et cette année il passe quand même à côté. Et bon, la flèche était quand même particulière avec sa. Avec le froid, mais bon, sur Liège, je m'attendais à ce qu'il pèse plus. Donc voilà, attention Mathias Kelmoseux sur cette fin de printemps, assez compliqué pour lui.
Pierrot, le champion du Danemark, décevant sur ce Liège-Bastogne-Liège, est-ce que ça mérite un avertissement pour toi ? Ou est-ce que tu lui vois des circonstances atténuantes ?
Peut-être avant de parler du champion du Danemark, moi je souhaitais revenir sur le champion du monde. Je croyais qu'il avait fait du bluff sur l'Amstel pour gagner et surprendre tout le monde sur Liège. Nicolas n'y a pas fait allusion, donc je pensais qu'il le mettrait en avertissement. C'est estimant être trompé par Mathieu Van Der Poel après son coup de bluff. Blague à part.
Je me suis trompé, mais à coup le pas.
Non, ça arrive à tout le monde, même à moi. premier.
très rarement.
Oui, non, Skelmose, pareil, pour le coup, j'aurais pu le mentionner aussi, parce que moi, j'en entendais bien mieux de lui sur l'ensemble des Ardennaises, et il est passé à côté. Après, là où je serais peut-être moins sévère, circonstance atténuante, c'est qu'il a quand même fait une grosse hypothermie, il devait être le mercredi ou le jeudi, j'ai plus la temporalité avec Carré la Flèche, mais donc c'est quand même des choses qui peuvent laisser des séquelles. Donc, ouais, peut-être que ça peut aussi, en partie, je dis bien en partie, expliquer, pardon, cette...
Ah, mais il faut trancher, là, monsieur. Est-ce qu'il y a un avertissement pour Mathias Kelmose ou pas? Parce que moi, je dois envoyer ça, la petite lettre à la famille après.
Envoyer à Lidl Trek.
Ouais, ouais, vas-y.
Allez, vas-y. Deux avertissements pour Mathias Kelmose. Bah, écoutez, ça vient clôturer notre conseil. Alors, ça vient clôturer notre conseil, mais c'est vrai qu'on a parlé, de Van Der Poel. On n'en a pas parlé, finalement, dans le conseil. Il a échappé à toutes les appréciations. Van Der Poel, qu'est-ce que vous en avez pensé, finalement? Quelle est l'image que vous retenez de Van Der Poel? Et on clôture le conseil là-dessus. Nico?
Mais moi, j'ai même pensé à un moment donné qu'il allait abandonner la course. Donc, Non, mais j'arrive... Si, parce que... J'arrive toujours pas à savoir comment il a fait troisième. Parce que non, mais quand il est pris à 100 bornes de l'arrivée dans la chute, qu'il ne peut pas passer, qu'il est en retard, en fait, je me suis dit, bon, bah, le peloton ne va pas rentrer et il va, il va bâcher ou il va arrêter. Bon, finalement, il parvient à rentrer. D'ailleurs, il y a un petit sujet là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Il y a quand même quelques voix qui s'élèvent en disant qu'il y en a qui seraient quand même plus rentrés dans les voitures que d'autres. Que Pidcock a fait les efforts et pas d'autres, mais bon, bref, peut-être un sujet à part. Et après, bah, moi je m'attendais, en plus, je sais pas à quoi je m'attendais avec lui.
Bon, alors Pierrot, il s'attendait donc, à quoi lui? Parce que est-ce que tu as été,
je sais pas, c'est très difficile.
Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Mathieu Van Der Poel? Est-ce que tu le trouves finalement, est-ce qu'il a fait une course comme tu l'attendais, c'est-à-dire comme tu l'as précisé au départ, au-dessus de 4000 mètres, bah, c'est difficile pour lui. Et puis, toute la classe de Mathieu Van Der Poel, on arrive quand même à le retrouver sur le podium. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Ouais, c'est bien résumé. Pour moi, il fait une course de champion parce qu'il aurait pu bâcher. Il s'est accroché. Et quand il a senti qu'il pouvait quand même aller chercher une place sur le podium, il fait le jump dans le final. Et puis après, il remporte assez facilement le sprint. Donc chapeau, contrairement aux courses précédentes, il n'était pas le plus fort et de loin. Et pourtant, il a mis son orgueil de côté. Et il va, alors certes, avec de la chance, hein, parce que derrière, devant, ça se regardait et ça m'a permis de rentrer. Mais ça démontre quand même aussi, pour moi, l'attitude du bonhomme qui ne lâche rien. Et donc pour ça, bravo.
Ok, bah écoutez, messieurs, ne croyez pas qu'on en a fini pour Van Der Poel, parce que le conseil est terminé, mais on va passer aux questions provoques, messieurs. En mode 53-11, 53-11, c'est un braqué, mais c'est aussi le temps que vous allez avoir pour répondre à chacune de mes questions. Il y aura deux questions, et on va continuer justement avec Mathieu Van Der Poel pour enfoncer le clou. Mais d'abord, j'aimerais savoir lequel de vous deux va avoir la main pour savoir s'il veut commencer à répondre ou pas. Et pour ça, je vais vous poser une petite question. Mathieu Van Der Poel, il a fait podium ce week-end, mais quelle était sa meilleure place avant sur Liège-Bastogne-Liège?
6,
bravo Nicolas, 6e en 2020 lorsque Roglic avait remporté Liège-Bastogne-Liège. Pierrot, il n'a même pas entendu la fin de la question. Nico, donc la question, je te la donne maintenant. La question, c'est Mathieu Van Der Poel, ça va être la petite question provoque. Mathieu Van Der Poel pourra-t-il remporter un jour Liège-Bastogne-Liège? Est-ce que tu commences, Nico, ou tu laisses la main à Pierrot? Tu as le choix, tu as gagné la question.
Allez, je commence.
Ok, alors c'est parti la question. Mathieu Van Der Poel pourra-t-il remporter un jour Liège-Bastogne-Liège? 53 secondes, 11 centièmes pour toi, Nico, pour répondre.
Je dirais non. Non, pour deux raisons. C'est que tant qu'il y aura un Pogacar ou tant qu'il y aura des grimpeurs sur Liège-Bastogne-Liège, des Remco, des Roglic ou d'autres qui vont arriver plus tard, je pense que Van Der Poel sera toujours inférieur à un profil type grimpeur, puncher sur Liège. Et la deuxième raison qui me fait dire ça, c'est que Van Der Poel lui-même l'a reconnu. C'est pas forcément un objectif de carrière de perdre du poids, d'aller perdre 5 kilos ou plus pour se concentrer uniquement sur Liège. C'est pas dans son optique. Il préfère courir sur d'autres courses et pas uniquement se concentrer sur une seule course comme Liège. Donc, je ne le vois pas gagner un jour Liège-Bastogne-Liège.
Ok, c'est Pierrot qui va te répondre ou abonder dans ton sens. Est-ce que Van Der Poel remportera un jour Liège-Bastogne-Liège comme son papa en 88? Pierrot? Donc c'est parti, 53 secondes.
Mais alors, faut j'ai que pas tu compris.
Eh ben, tu as 53 secondes pour répondre à la question. Tu peux être d'accord avec Nico ou pas? Est-ce que tu penses que Mathieu Van Der Poel gagnera un jour Liège-Bastogne-Liège?
Ok, la réponse est non, parce que il est trop lourd. À moins de perdre du poids, mais ça a aussi des conséquences sur le reste de sa saison. Il est sur un parcours qui est trop difficile pour lui. Donc, et puis surtout, il a la possibilité de gagner sur plein d'autres terrains. Donc non, je pense que Mathieu Van Der Poel ne gagnera jamais Liège. Voilà.
Ok, très bien. Bah, vous êtes d'accord. Alors, bon, il essaiera jamais de tenter sa chance un jour sur Liège-Bastogne-Liège et avoir une préparation spécifique. Bon, on verra ça. Pour l'instant, vous.
C'est ce qu'il a dit dans l'équipe. Il y a une interview, c'est ce qu'il dit dans l'équipe.
Qu'il
n'envisage pas de faire une préparation spécifique sur Liège et de centrer uniquement sa saison sur cette victoire à un moment donné. Qu'il l'envisage
d'accord.
pas du tout.
D'accord, bah il ne pourra pas mettre le même trophée que son papa à côté. Et j'ai une deuxième petite question provoque pour vous. Vous avez été rapide, vous avez été fugace, intéressant, intelligent, bravo. La deuxième question concerne notre extraterrestre, Pogacar. Je vous pose d'abord, avant d'avoir la question provoque, je vous pose une petite question pour savoir qui va avoir la main. Pogacar a remporté son sixième monument avec les Bastogne-Liège. Mais quel est le premier monument qu'il a remporté, Mathieu Van Der Poel?
Attends, c'est quoi Mathieu Van Der Poel? J'ai pas compris.
Voilà, Pogacar. Quel est le premier monument qu'il a remporté?
Lombardie.
Zéro.
Liège.
Eh oui, c'est Liège. Okay. Liège-Bastogne-Liège en 2021. Donc, Pierrot, tu as la main. Alors, la question, je vais vous la poser tout de suite. La deuxième question provoque. Pogacar va-t-il réussir à faire le doublé Giro Tour de France? Eh ouais, on se projette là, on est vraiment dans le vélo fiction. Je sais que vous aimez pas ça, mais vous êtes compétent, donc vous allez savoir répondre. Pierrot, tu as répondu bien à la question. Tu vas pouvoir décider si tu veux commencer ou si tu laisses Nico.
Bon, je vais laisser Nico. Il va prendre un peu de vent et puis je déboulerai dans les 200 derniers.
J'aime cette attitude. Alors, ça va être parti. 53 secondes maximum, comme le braquet. 53 secondes, 11 centièmes maximum comme le braquet. Pogacar va-t-il faire le doublé Giro Tour de France? Nico.
Non, il va gagner le Giro. Je pense que sur le Tour de France, ça va être compliqué. Un, parce qu'il y aura l'enchaînement avec le Giro. Et depuis Pantani, personne n'a fait ce doublé là. Et en fait, je me dis juste, si Vingegaard revient bien et revient en forme, Vingegaard sera meilleur que Poggi sur le Tour de France. Ça dépend de ça. C'est un gros facteur. Mais si Vingegaard est là, je dis non.
Ok, c'était rapide. Pierrot, peut-être apporter un peu plus de précision.
Oui, je pense qu'il peut faire le doublé dans la mesure où le Tour d'Italie n'est pas forcément très difficile avec une adversité, une concurrence par rapport à son potentiel qui est assez faible. Donc ça peut lui permettre de gagner le Tour d'Italie sans trop griller de cartouches, en tout cas sans avoir un besoin de récupération trop long jusqu'au Tour de France. Et concernant le Tour de France, il s'avère que son concurrent principal qui a déjà battu aujourd'hui, s'il n'est pas dans un lit d'hôpital, je pense qu'il fait pas grand chose, et donc sa préparation me semble quand même très compromise pour être à 100%. Et pour battre Pogacar, même si on s'appelle Vingegaard, il faut être à 100%. Donc à ce titre là je pense qu'il est favori pour réaliser le doublé.
Eh ben c'est très bien, messieurs. Ça serait le premier doublé de Pipantani, comme l'a si bien précisé Nico. Vous n'étiez pas d'accord sur cette question? Eh ben on aura nos réponses à nos questions dans les mois à venir. En tout cas, c'était
très. Tu tranches pas, toi? Toi, tu tranches pas?
Ah non, je vous laisse. J'ai mon petit avis. Vous voulez mon petit avis?
Bien sûr.
Sur la première question, Van Der Poel, Liège-Bastogne-Liège, je pense effectivement que ça sera compliqué pour Mathieu Van Der Poel de remporter Liège-Bastogne-Liège. Sauf concours de circonstances et absence entre guillemets de Remco Pogacar. Donc s'il n'y a pas ce concours de circonstances, je ne le vois pas remporter les Liège-Bastogne-Liège. Et Pogacar, effectivement, comme là, je me range du côté de Pierrot, je pense que Vingegaard, pour moi, c'est cuit. Au vu de l'accident, de l'importance de l'accident qu'il a eu, sa préparation sera tronquée. Et je pense que ça sera insuffisant pour avoir un Vingegaard soit présent à 100% sur le tour. Et je pense que Pogacar remportera Giro plus Tour. J'ai tout de même une petite interrogation effectivement sur le fait de cumuler les deux avec Jura Roglic et Remco. Je suis curieux de voir dans quel état il finira le Tour, mais pour moi, je me range du côté de Pierrot, je le vois bien réaliser le doublé. Voilà, écoutez messieurs, il y a quand même du vélo qui continue, il y a surtout des autres Classic World Tour. On va passer tout de suite à notre rubrique Preview Prono. C'est parti, on va faire nos pronos sur le Tour de Romandie.
Votre pronostic.
Une boucherie.
Alors le Tour de Romandie, messieurs, il a commencé depuis 2 jours et il se terminera dimanche. C'est la 67e édition cette année de ce Tour fondé en 1947. On connaît le Tour de Romandie, il y a du prologue, il y a du contre-la-montre et on met quelques petites étapes entre deux. Sont présents sur ce Tour de Romandie cette année le vainqueur 100 Adam Yates, mais également le vainqueur 2022 Vlasov, bien accompagné Adam Yates par Ayuso, son coéquipier de la UAE, et Vlasov par Jay Hindley, l'ancien vainqueur du Giro 2022. On a également d'autres favoris qui vont se mesurer à ces coureurs. On a bien sûr du côté français Godu, Martinez, le triptyque de chez Ineos, Bernal, Arensman, Carlos Rodriguez, et puis les inamovibles, Mas, Carapaz, Simon Yates, Caruso, Richie Soudal, Alaphilippe, Angelder, et je cite également, même s'il est peut-être un peu moins favori, je le coureur Théo Gegenhardt de la Lidl Trek. Messieurs, ce Tour de Romandie, on a passé les deux premières étapes, c'est Dorian Godon pour l'instant qui est maillot jaune. On aura 2 étapes montagneuses aujourd'hui et vendredi, on va dire un peu plus montagneuses puisqu'on sera, on dépassera pas les 3005 de dénivelé, mais ça finira en côte. Un contre-la-montre vendredi, une étape montagneuse samedi. Messieurs, je vais vous poser la première question de cette preview du Tour de Romandie. Vous allez me dire ce que vous attendez de ce Tour de Romandie. Pareil, vous allez avoir 1 minute chacun. Et c'est Pierrot qui va commencer. Qu'est-ce que vous attendez de ce Tour de Romandie ? 1 minute, c'est parti, Pierrot.
Alors moi, ce que j'attends du Tour de Romandie, et ça fait lien avec ce qu'on s'est dit précédemment sur les campagnes de classiques, c'est d'avoir du spectacle, du suspense, avec des concurrents qui sont d'un niveau similaire, avec d'éventuels rebondissements. Je pense que le niveau est assez homogène quand on voit la start list et les leaders que tu as évoqués. Donc ça, c'est mon attente d'ensemble. J'en attendais aussi une surprise sur le prologue et on en a eu une grosse. Donc je trouve ça bien que sur un parcours vire-vire très court, ça puisse permettre à des coureurs moins connus de s'imposer. C'était chouette. Et puis après, pour finir sur une touche comme d'habitude franco-française, curieux de voir notamment le duo David Godu et Lenny Martinez, je pense quand même qu'il y a une petite guerre des chefs pour savoir qui légitimement doit avoir le lead sur des courses de 3 semaines. Voilà pour mes attentes.
Ok, très bien. Avant de passer au prono, on va surtout avoir la même chose du côté Nico. Qu'est-ce que tu attends de cette course ?
J'attends effectivement du suspense après ces classiques de printemps qui n'ont pas trop laissé. Mais j'ai mis un petit doute, une petite réserve, parce que pour moi, l'équipe du AE est ultra archi favorite. Tu l'as dit avec Ayuso, Yates, McNulty. Ayuso, je pense que le parcours lui convient parfaitement parce que bon, il y a eu un petit prologue. Il y a surtout un chrono qui va lui convenir sur lequel il pourra faire la différence. Et il y a 2 étapes de montagne, même chose, qui vont bien lui convenir. Et surtout, quand on voit son début de saison, Ayuso est très fort. Et pour moi, c'est le plus fort sur ce tour. Donc avec l'équipe qu'il a, j'ai du mal à voir comment la victoire pourrait lui échapper. Mais maintenant, il y a 2 équipes que j'attends aussi. C'est Ineos avec Bernal qui est très en forme et Timan Arensman, un parcours qui lui convient bien aussi avec ce chrono, qui peuvent un peu venir bousculer cette hégémonie UAE. Et puis Labora avec Vlasov qui fait un excellent début de saison, avec Jane Lay aussi qui a été 3e sur le Tirreno. Donc j'attends que ces 2 équipes-là, Ineos et Bora, viennent un peu bousculer l'hégémonie UAE sur ce Tour de Romandie.
Ok, très bien. Eh ben, écoutez, je pense que c'est très clair. On attend du suspense et on attend un match UAE, Ineos, Bora. Il y aura quand même d'autres favoris, je les ai cités. Alors aujourd'hui, on aura la première des étapes montagneuses. Bon, on n'est même pas à plus de 3000 de dénivelé, mais par contre, ça finit par un col assez dur tout de même, 7,6 km à 7,5%, le col des Marécottes. Toi, Pierrot, qui tu vois en position de s'imposer sur cette étape de moyenne montagne ? Est-ce que tu vois une équipe capable de lutter avec Yet, c'est UAE et Ayuso, de chez UAE, pardon.
Oui, comme je le disais précédemment, je pense que c'est quand même relativement homogène. Nicolas l'a évoqué. Je pense que certes, UAE représente la plus grosse cylindrée, mais Ineos avec Bernal et Carlos Rodriguez et la FDJ avec Godu et Martinez ont aussi des cartes à jouer. Donc, pour répondre à la question, sur une ascension qui est pas si dure, encore une fois, je parle pour des professionnels World Tour, ça peut se résumer à un petit sprint, un sprint en petit comité, et là-dessus, c'est dur. Peut-être comme une petite pointe de vitesse, un Carapaz, un Vlasov, voire même un Bernal, enfin peut-être plus un jump qu'une pointe de vitesse, peuvent tirer leur épingle du jeu, mais en tout cas, sur l'étape d'aujourd'hui, je vois pas forcément UAE faire une démonstration.
Ok, Nico, toi, UAE, est-ce que tu penses qu'ils vont profiter de l'étape d'aujourd'hui pour asseoir le leadership ou peut-être plus le contre-la-montre et l'étape de samedi qui est plus difficile en termes de dénivelé mais qui se finit sur un col plus long mais moins dur, hein. 14 bornes à 6% le col de l'Essin pour l'étape de samedi. Quand est-ce que tu vois UAE dégainer?
Je pense que Ayuso et UAE vont prendre une option là sur le chrono. Qui va peut-être pas jeter toutes ses forces effectivement sur l'étape d'aujourd'hui. Donc, je partage l'avis de Pierrot, je vois bien un petit groupe homogène, arriver ensemble avec un petit sprint à plusieurs. Mais à ce petit jeu-là, Adam Yates, je vois bien un petit, pour le coup, Adam Yates tirer son épingle du jeu.
D'accord.
Ou faire un petit coup, partir un peu en facteur, là, 200-300 mètres de la ligne ou un petit peu plus. Je vois bien Adam Yates faire un petit coup comme ça.
Alors, j'ai envie de rebondir sur Adam Yates. Tu parles d'Adam Yates, tu parles d'Ayuso. Il y a quand même un hydre à deux têtes chez UAE. Est-ce que cette épreuve du Tour de Romandie, malgré le fait qu'on est sur même pas une semaine d'épreuve avec des étapes de moyenne montagne, elle peut avoir de l'importance en fait pour avoir le second qui sera derrière Pogacar pour le Tour de France, la seconde carte, Pierrot?
Non. Je pense qu'il y a Pogacar et les autres. Donc, on l'a vu sur les autres courses d'une semaine, ils se partagent le leadership selon la forme de chacun, après saisir les opportunités. Mais autant je pense que ce Tour de Romandie est quand même un révélateur sur le niveau de concurrence pour affronter Pogacar, notamment sur le Tour de France. Mais en interne, au sein du AE, je pense que les choses sont assez claires et je pense qu'il n'y a pas forcément de test sur qui doit endosser un éventuel statut de leader de rechange. Mais je ne suis pas dans le bus UAE. Donc,
alors, bon, on va demander à quelqu'un qui est dans le bus. Nico, toi qui es dans toutes les soutes des bus de vélo, qu'est-ce qu'il dit chez UAE? Est-ce que cette course a de l'importance pour potentiellement clarifier un potentiel leadership entre Yates et Ayuso sur le reste de la saison et sur le Tour de France?
Moi, je suis resté dans le bus d'IF, hein. Je ne suis pas dans le bus du UAE. Donc, désolé, je ne pourrais pas répondre. Non, je pense que l'importance déjà pour eux, c'est un de gagner, hein, que ce soit avec Ayuso, Yates, ou voir si jamais problème McNulty.
Ah, McNulty, il est déjà à plus de 10 minutes.
Ah bon? Ah, j'ai pas fait gaffe sur le.
Ah, hier, il a perdu du temps.
Ok, j'ai pas suivi. Bon, Ayuso ou Yates, non, je pense que l'important, ça va être de gagner, pas de privilégier quelqu'un plutôt qu'un autre. Et puis, au contraire, je trouve que c'est bien de. S'ils font 1 et 2 ou 1 et 3, ça reste bien aussi de brouiller un petit peu les cartes, de pas forcément distinguer un plutôt qu'un autre, mais d'arriver avec deux coureurs ultra forts derrière Pogacar. Et de brouiller peut-être encore un peu plus les cartes en vue du tour. Je pense que, à mon avis, leur objectif principal reste la victoire sur ce tour.
Oui, la victoire peut-être plus que brouiller les cartes.
Tout à fait.
Dernière question avant de passer à votre prono. Les Français, on les a évoqués, c'est essentiellement Godu et Martinez. Qu'est-ce que vous en attendez et qui vous voyez le plus fort sur une épreuve de ce type avec deux étapes de moyenne montagne et un contre-la-montre légèrement vallonné de près de 16 bornes. Nico?
C'est une bonne question. En fait, moi, j'attends de voir comment... tu poses toujours des bonnes questions. Non, mais j'attends de voir la confirmation de Lenny Martinez après ses premières places à la classique du, du Grand Besançon et du Tour du Doubs, là, il va quand même se frotter à ce qui se fait de mieux, je dirais, en termes de grimpeurs. Bon, excepté Poggi, Vingegaard ou Evenepoel qui ne sont pas là, mais il va quand même se frotter au gratin mondial. Donc, j'ai hâte de voir comment il va pouvoir rivaliser. C'est peut-être pas forcément l'école qui lui ou les profils de col qui lui conviennent le mieux, mais bon, c'est sûr que pour le général, avec le chrono, et c'est comme Godu, ils pourront pas gagner, ça c'est inévitable. Mais j'ai hâte de voir si sur ces deux étapes de montagne.
Ah, le chrono est un peu vallonné, et je pense qu'il est. On verra, ouais. Ça sera intéressant de voir.
Ah ben moi, je pense qu'Ayuso va. Va éclater le chrono loin devant.
Siro, non,
j'ai hâte de voir comment ils vont se comporter par rapport aux autres gratins. Enfin, aux autres
Siro, Godu ou Martinez qui finira premier à la fin de cette semaine ?
Je tiens quand même à préciser que Lini Martinez, au-delà de sa victoire. Autour du Doubs et je sais plus le Grand Besançon, je sais pas quoi. Enfin, il fait 7 à la Catalogne et il avait fait 2 du Grand Camino derrière Vingegaard. Donc, il a quand même apporté certaines garanties sur des courses d'une semaine face à une concurrence de très haut niveau. Donc, c'est aussi pour ça que ça rend le duel, en tout cas, le fait qu'il soit aussi présent en même temps que Godu. Très intéressant. Moi, je serais curieux de voir Godu, qui a eu un début de saison contrarié, mais qui a l'air de bien revenir. Donc, j'ai pas trop d'avis. Je pense qu'effectivement, le Tour de Romandie est peut-être pas si dur que ça par rapport aux caractéristiques de Lini Martinez. Mais à voir. Est-ce que finalement, le chrono n'aura pas plus d'incidence que les deux arrivées en montée? J'avoue que je connais pas assez le parcours pour pouvoir avoir un avis tranché sur le sujet.
Bon, alors là, il va me falloir votre avis tranché, puisque messieurs, l'heure est grave. On va passer au pronostic. Je vais rappeler d'abord les scores. Nico, 2 points, 2 bons pronostics depuis le début de l'année, depuis les 6 pronostics ou 5 pronostics qu'on a fait. Pierrot, 1 point, et je partage également la tête avec Nico, 2 points. Ah, oui, voilà, oui. Pas beaucoup de mérite, Van der Poel, Pogacar pour les 2 points.
J'avais dit que Poggi partirait dans la côte de la Redoute et qu'il mettrait 50 secondes à tout le monde, ça compte
et
pas.
Ça compte pas, mais on mettra sur ton bulletin que tu participes à l'oral et c'est le principal. Je vais vous demander juste le vainqueur pour vous de ce Tour de Romandie, qui va lever les bras dimanche, qui sera maillot jaune. Eh bien, c'est Pierrot qui va s'y coller et fournir son premier pronostic.
Ouais, allez Pierrot. Je vais vous laisser là-dessus, moi. Je pense que c'est Ayuso qui va gagner ce Tour de Romandie. Et pour la petite cote, ou la grosse cote plutôt, j'anticipe l'éventuelle question suivante.
Ouais.
Pourquoi pas Bernal, qui est en forme, qui court beaucoup, il faudra peut-être qu'il se repose à un moment donné. Mais peut-être que ça peut être la surprise de ce Tour de Romandie.
Nico, à toi.
Ayuso pour le vainqueur. Et je vois bien un autre Ineos, Timen Arensman, faire un joli coup avec le chrono qui va bien lui convenir. Donc je vois bien Arensman être bien placé sur ce Tour de Romandie.
D'accord, très bien. Bon, ben alors il n'y aura pas beaucoup de suspense parce que je vais vous suivre, les copains. Je vais mettre Ayuso et par contre, moi, un autre Ineos, c'est Carlos Rodriguez.
Voilà, on a les trois.
Écoutez, Ineos, lui à eux pour nous tous. C'est le moment de se dire au revoir, messieurs. Passez une bonne après-midi. Je vois que Pierrot a déjà dû partir. Bon, il nous laisse tous les deux.
C'est merci, Pierrot. Super. Ça, c'est le.
Allez. Écoutez, passez une bonne journée. N'hésitez pas à commenter l'émission et puis à la partager. Et puis entre temps, j'espère que pour vous, ça roule, messieurs.
Salut à tous, ciao.
Ciao Nico, salut.